dans sa figure tombante, au-dessous de ses moustaches mélancoliques, le coin gauche de sa bouche se retroussa en un petit rire silencieux qui découvrit une canine démesurée, une canine de bête féroce. Durant une seconde ou deux, cela lui donna un air de joie sardonique. Avec une pareille dent, le personnage devait mordre à fond. Rouxval n'avait pas peur d'être mordu. Mais son interlocuteur ne lui disait rien de bon. Et il s'en fut débarrassé en toute hâte si le président du conseil ne l'avait pas imposé avec une telle insistance.
Asseyez-vous. Bon, je vais interroger et confronter entre elles trois personnes qui sont ici. Au cas où vous auriez quelque observation à faire, vous me la communiquerez directement.
Directement, monsieur le ministre, et tout bas, comme c'est mon habitude quand le supérieur bafouille.
Rouxval fronça le sourcil. D'abord, il détestait qu'on ne gardât point les distances auprès de lui. Puis, comme beaucoup d'hommes d'action, il avait le sentiment très vif et la crainte du ridicule. Appliqué à lui, cette expression de bafouillage lui semblait à la fois un outrage inadmissible et une menace volontaire. Mais déjà, il avait sonné et l'huissier entrait. Sans plus attendre, il donna l'ordre que les trois personnes fussent introduites. Hercule Petit-Gris retira son pardessus verdâtre, le plia soigneusement et s'assit. Le monsieur et la dame se présentèrent les premiers. Ils étaient en deuil tous deux et d'allure distinguée. Elle, grande, jeune encore et très belle, avec des cheveux grisonnants et un pâle visage aux traits sévères. Lui, plus petit, mince, élégant, la moustache presque blanche.
Le comte de Bois-Vernay, n'est-ce pas ?
Oui, monsieur le ministre. Ma femme et moi, nous avons reçu votre convocation, laquelle nous a un peu étonnés, je l'avoue. Mais nous voulons croire qu'elle ne nous annonce rien de pénible. Ma femme est assez souffrante.
Il la regardait avec une inquiétude affectueuse. Rouxval les pria de prendre place.
Je suis persuadé que tout s'arrangera pour le mieux et que madame de Bois-Vernay excusera le petit dérangement que je lui cause.
La porte s'ouvrait de nouveau. Un homme de 25 à 30 ans s'avança. Il était de condition plus modeste, peu soigné dans sa mise, et sa physionomie, quoique sympathique et avenante, présentait des signes de déchéance et de fatigue qui déroutaient chez cet être jeune et carré d'épaules.
C'est bien vous, Maxime Lériot ?
C'est moi, monsieur le ministre.
Vous ne connaissez pas monsieur et madame ?
Non, monsieur le ministre,
affirma le nouveau venu en observant le comte et la comtesse.
Nous ne connaissons pas non plus monsieur.
Je regrette que l'entretien commence par une déclaration contre laquelle je suis contraint de protester. Mais cette petite erreur se dissipera d'elle-même au moment opportun. N'allons pas trop vite. Et sans nous attarder à ce qui n'est pas essentiel, prenons les choses du début.
Et se servant du dossier ouvert sur la table, il se tourna vers Maxime Lériot.
Nous commencerons par vous, monsieur. Vous êtes né à Dolincourt, Eure-et-Loir, d'un paysan laborieux qui s'est saigné aux quatre veines pour vous donner une éducation convenable. Je dois dire que vous l'en avez amplement récompensé par votre travail. Études sérieuses, conduite parfaite, attention délicate pour votre père. En tout, vous vous êtes montré bon fils et irréprochable élève. La mobilisation vous surprend simple soldat au chasseur à pied. 4 ans plus tard, vous étiez adjudant et croix de guerre avec 5 citations. Vous contractez un engagement. À la fin de 1920, on vous trouve à Verdun. Toujours excellente tenue. Vos notes vous signalent comme capable de faire un bon officier et vous songez même à passer votre examen. Or, vers la mi-novembre de cette année, coup de théâtre. Un soir, dans un dancing de 3e ordre, après avoir fait déboucher 10 bouteilles de champagne, la tête perdue, au cours d'une discussion sans motif, vous dégainez. On vous arrête, on vous mène au poste, on vous fouille. Vous étiez porteur de 100 000 francs en billets de banque. D'où teniez-vous cet argent? Vous n'avez jamais pu l'expliquer.
Pardon, monsieur le ministre, j'ai dit que cet argent m'avait été remis en dépôt par quelqu'un qui ne voulait pas se nommer.
Explication sans valeur. Toujours est-il qu'une instruction est ouverte par l'autorité militaire. Elle n'aboutit pas. Mais 6 mois après, libéré de tout service, vous êtes l'objet d'un autre scandale. Cette fois, votre portefeuille contenait pour 40 000 francs de bons de la défense. Et là-dessus encore, le silence et le mystère.
Lériot ne se donna pas la peine de répondre. Il semblait considérer ces événements comme tout à fait insignifiants. Et il ne s'émut pas davantage de l'évocation de 2 autres démêlés exactement du même genre qu'il avait eu avec la justice.
Ainsi donc, aucune explication, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas nous dire comment vous faites face à la vie de débauche que vous menez depuis ce temps. Pas de situation, pas de ressources avouables, et cependant, l'argent coule entre vos doigts comme si la source en était inépuisable.
Oh, j'ai des amis.
Quels amis? On ne vous en connaît pas. La bande avec laquelle vous courez les lieux de plaisir se renouvelle constamment et se compose d'ailleurs d'individus sans aveu qui vivent à vos dépens. Les agents spéciaux qui se sont occupés de vous à cette époque n'ont rien découvert. Et vous avez continué à descendre la mauvaise pente. Seul le hasard ou une imprudence de votre part pouvait se tourner contre vous. C'est ce qui se produisit. Un jour, sous l'arc de triomphe, non loin de la tombe du soldat inconnu, un homme s'approcha d'une dame qui, chaque jour, venait y prier et lui dit cette phrase. « J'attends demain l'envoi de votre mari. Avertissez-le, sinon... » Le ton était menaçant, l'attitude de l'homme hargneuse et méchante. La dame se troubla et remonta vivement dans son automobile. Dois-je préciser que l'une de ces personnes était vous, Maxime Lériot, et l'autre, la comtesse de Boisvernet, et que tout à l'heure, ces 2 personnes affectaient de ne point se connaître.
Rouxval brusquement leva les mains à l'adresse du comte qui allait intervenir.
Je vous en supplie, monsieur, n'essayez pas de nier l'évidence. Ce que j'affirme n'est pas le résultat de déductions ou d'hypothèses, ni l'interprétation de racontars, mais le strict énoncé de faits que j'ai connus ou contrôlés moi-même. Si vous avez perdu votre fils à la guerre, et si madame de Boisvernet va prier chaque jour près de la dalle sacrée, moi j'ai perdu les 2 miens. Et il n'est pas de semaine où je m'arrête également là-bas pour m'entretenir avec eux. Or, la scène eut lieu près de moi. C'est moi qui entendis la phrase prononcée. Et je fus pour mon édification personnelle, sans rien connaître encore des incidents que je viens d'exposer, que je m'occupais de savoir qui avait ainsi parlé. Et quelle était la victime de ce qui me paraissait un chantage?
le comte se tut. Sa femme n'avait pas bougé. Dans son coin, le policier Hercule Petitgris hochait la tête et semblait approuver la façon dont l'interrogatoire était mené. Jean Roxval, qui l'observait du coin de l'œil, en ressentait de l'assurance. La dent ne pointait pas au coin de la bouche. Tout allait donc pour le mieux. Et il poursuivit en resserrant de plus en plus l'étreinte de son réquisitoire.
À partir du moment où les circonstances me donnèrent la conduite de cette affaire, elle changea de face, pour la raison qu'elle s'était révélée à moi dans un cadre plutôt que dans un autre. Que je m'en rendisse compte ou non, ce souvenir domina toutes mes pensées et gouverna l'enquête que je fis presque involontairement sur l'ordre catégorique d'une intuition à laquelle je ne pus résister. Tout de suite, au lieu de voir en Maxime Lériot l'homme d'aujourd'hui, je vis le soldat d'autrefois. Son passé m'intéressa plus que son présent. Or, instantanément, au premier coup d'œil jeté sur le dossier, deux choses me frappèrent. Un nom et une date. Maxime Lériot se trouvait à Verdun, et il s'y trouvait au mois de novembre 1920. Pour un père qui pleure ses fils disparus, il y a dans ce nom et dans cette date quelque chose de particulier. Leur rapprochement prend une signification immédiate. Si chaque jour Madame de Boisvernet vient prier sous l'Arc de Triomphe, si j'y vais avec tant de ferveur, c'est parce que la veille du 11 novembre 1920, anniversaire de l'armistice, il s'est déroulé dans les souterrains de la ville sainte la plus solennelle des cérémonies. Ce fait bien établi, comment s'expliquer la présence sous l'Arc de Triomphe de Maxime Lériot, adjudant de chasseurs à Verdun en novembre 1920? J'allais me renseigner sur place. Ce ne fut ni long ni difficile. Son ancien chef de bataillon, que j'interrogeais, me montra aussitôt le texte d'une décision signée par lui à cette époque, et dont la lecture fut pour moi un trait de lumière. Le conducteur d'un des 8 fourgons funèbres qui avait amené de 8 points différents des champs de bataille les 8 cadavres non identifiés parmi lesquels devait être choisi le soldat inconnu, ce conducteur n'était autre que l'adjudant Lériot.